Chronique d'un nouveau monde numéro 3, le 25 juillet 2020. Prisonnier des murs, prisonnier du passé.
Le déni est pire qu'une douloureuse vérité. Sandé Genaël. Dans cette chronique, nous vous proposons de relater une surprenante aventure qui nous a grandement enseigné sur l'existence des mondes de l'au-delà et leur incontestable influence dans notre réalité. Notre objectif n'étant pas d'incriminer qui que ce soit, mais d'apprendre davantage sur les mondes qui nous entourent, par égard pour les personnes concernées, nous leur avons attribué des noms et prénoms d'emprunt. Les pseudonymes alloués font bien évidemment partie du système d'indices. Nous tenterons également de rester le plus objectif possible. Comprendre, apprendre et partager nos expériences, n'est-ce pas la raison pour laquelle nous sommes incarnés ici-bas ? Tout est leçon. En ce qui nous concerne, le dénouement de cette histoire ne s'est révélé que récemment. Elle raconte ce qui peut arriver lorsque des défunts qui hantent les murs d'une maison essayent à tout prix de transmettre un message à leur famille, mais que ces derniers, réfutant la nature des mondes de l'au-delà, refusent d'en prendre connaissance. Nous avions trouvé une location dans une petite localité dans les montagnes des Courbières. Installée depuis un an et demi environ, dans un petit trois-pièces d'une maison de village, des signes de plus en plus révélateurs nous indiquaient que quelque chose ne tournait pas rond, ni dans la commune, ni dans notre maison. Rien que le nom de la commune, Albière, qui en langage des oiseaux signifie « tous en bière », en disait long. Dès les premiers jours, nous étions interpellés par un brancard d'antan entreposé sous le parvis de l'église, qui ressemblait étrangement à ceux qui étaient utilisés pour évacuer les morts pendant les épidémies. Nous étions également surpris par le nombre de gens, mal en point ou handicapés, qui déambulaient dans le village. Arrêtons-nous un instant sur la définition de l'expression « mise en bière ». « Bière » est un mot qui vient du vieux français et donc du latin « bera », qui veut dire « brancard ». L'histoire nous renvoie aux grandes épidémies de peste pendant lesquelles les corps des morts étaient conduits sur des charrettes ou brancards pour être brûlés au bûcher ou jetés dans la fosse commune. On a ensuite parlé de mise en bière lorsqu'on déposait le corps sur une estrade funéraire destinée à soutenir le cercueil, puis bière a fini par désigner le cercueil. La mise en bière correspond donc au moment où le corps du défunt est installé dans le cercueil. Voir le lien sur notre site. Était-ce donc des indices de l'histoire passée de la commune ou de ceux de son futur? Sachant que l'histoire se répète en boucle, cela laisse songeur. À peine arrivés, certains voisins nous prévenaient de nous méfier les uns des autres. Des rumeurs circulaient, prétendant que d'anciennes grandes familles étaient en conflit depuis des générations. Même le maire, dans son allocution annuelle, avait fait état de querelles entre propriétaires. En quittant Cassaigne, le village de notre ancienne résidence, nous n'ignorions pas que de nouvelles péripéties nous attendaient, mais nous étions loin de nous douter de ce que nous allions découvrir. D'autant plus que cette fois, d'autres Léo, en quête de percer les mystères de notre monde, s'apprêtaient eux aussi à s'installer dans le village. Quelques jours après les grandes inondations survenues dans l'Aude, il ne cessait toujours pas de pleuvoir par chez nous. Au matin de notre première nuit, quelle ne fut pas la surprise de découvrir une grosse flaque d'eau à l'entrée de notre maison qui s'était apparemment infiltrée par les soubassements et les murs. Les semaines suivantes, une armée de souris dévalisait la cuisine et les placards. Puis, ce fut au tour des Calidés rouges sang d'investir les lieux. Les canalisations d'eau se bouchaient régulièrement, rendant l'évier inutilisable et générant de mauvaises odeurs. Mais le plus difficile à vivre était qu'à chaque forte pluie, de l'eau ruisselait aussi par les murs du rez-de-chaussée, submergeant partiellement le carrelage de la cuisine et rendant les périodes de pluie assez inconfortables à vivre. Pour couronner le tout, la maison était équipée d'un poêle à bois qui, pourtant récemment ramonné, produisait beaucoup trop de suie qui, humide, devenait un bistre puant, rendant l'endroit irrespirable quasiment après chaque flambée. Parfois aussi, des bruits de vaisselle, des craquements, des odeurs persistantes de tabac semblaient révéler des présences. Ces désagréments perduraient au point où un jour, nous dûmes en avertir nos voisins, les parents de Loïc, notre propriétaire, puisque ce dernier ne résidait pas dans la région. Nous avions d'ailleurs fait appel à eux en premier lieu, car nous échangeons souvent à propos de phénomènes incompris ou étranges dont eux-mêmes avaient déjà été témoins ou intéressés. Bien qu'ils s'employaient de leur mieux pour parer à nos déboires, rien n'y faisait. Il se passait vraiment quelque chose de bizarre dans cette maison. Quelque temps plus tard, par une nouvelle nuit de pluie, nous fûmes réveillés en sursaut par un vacarme insolite, comparable à celui que produit le gravier déchargé d'une benne de camion. Nous constations le lendemain qu'une partie de la vieille toiture attenante à la nôtre s'était effondrée. Margie et Damien, nos voisins résidant dans le même bâtiment, malgré le vacarme, n'avaient absolument rien entendu. Les parents de notre propriétaire, habitant derrière la maison, eux non plus n'avaient rien remarqué. Ils avertirent toutefois leur autre fils Martin, entrepreneur du bâtiment et propriétaire du logement de Margie et Damien, qu'il fallait réparer. Trouver une solution pour que la maison puisse à nouveau être abritée de la pluie devenait alors une affaire familiale. Et en effet, affaire de famille il y avait. Le jeu de pistes qui peu à peu se dévoila le confirmera bientôt. Pour le comprendre, nous devions d'abord suivre la piste et noter les signes. Il fallait aussi nous apercevoir que pratiquement tous les Léo, comme s'ils avaient été guidés par un extraordinaire hasard, avaient trouvé à loger dans des maisons du village, appartenant toutes à des aïeux de cette même famille, la famille Suidebout. Celle où nous habitions était celle où Mathilde, la mère de notre propriétaire, était née. Autre indice qui, de prime abord, n'avait aucun rapport avec notre histoire, mais qui, à son dénouement, venait illuminer ce jeu de pistes, était que depuis que cette suie bistre déferlait dans le conduit de cheminée, Génaël souffrait curieusement et de façon assez régulière de vives douleurs au côlon. Pour la plupart des gens, ces événements n'auraient pas eu de sens. Mais parce que nous sommes réceptifs à notre environnement, à notre ressenti, et que nous avons appris à élargir nos perspectives afin de permettre à de nouvelles circonstances de se manifester, ces événements mis bout à bout constituaient pour nous une grille de lecture qui allait dépasser l'entendement de l'humain cartésien ordinaire. Car tous ces indices relevant de la sérendipité auraient pu rester conjecturaux si Edmond n'avait pas insisté pour vouloir se manifester. D'autant plus que par moments, il était accompagné d'une petite fille qui parfois apparaissait furtivement dans l'encadrement d'une porte. Alors, qui était Edmond ? Edmond était l'oncle de Mathilde, décédé un mois de mai dans les années 90. Vénéré par sa famille, mais craint par d'autres, il avait emporté un secret dans son voyage vers l'au-delà. Il y avait bien là un problème, car si Edmond ne parvenait pas à révéler ce qui lui pesait, il ne pouvait malheureusement pas y trouver le repos. Car ce secret, une fois divulgué, devait offrir la possibilité de libérer les générations à venir de la famille Suidebout, ainsi que d'autres familles du village. Sachant cela, et n'ayant pas encore pu rejoindre les mondes de cinquième densité où repose l'âme, à cause de ce qu'il savait et qu'il aurait dû révéler pour accomplir son processus de récapitulation et de libération de l'âme, il devait trouver le moyen de le communiquer à ses descendants. Nous savons aujourd'hui par expérience, puisqu'il s'agit d'un volet essentiel de notre travail au sein du réseau Léo, que les secrets de famille sont souvent liés à des événements psychologiquement traumatisants qui, enregistrés dans la mémoire génétique de l'âme, obligent les descendants de ces familles à rejouer des histoires qui finalement ne sont pas les leurs, mais dont ils sont porteurs. Ils se réincarnent alors dans de multiples boucles temporelles karmiques afin de tenter de résoudre le nœud du traumatisme désormais inscrit dans leur génétique et celle de leurs descendants. Ce genre de secret, généralement profondément enfoui dans l'inconscient de la personne qui pourrait le dénouer, fait qu'elle le refoule, le dissimule, jusqu'à même le protéger. En l'occurrence, Mathilde était cette personne. Sous un épais rempart de culpabilité, elle dissimulait un mystère qu'elle-même ne pouvait soupçonner. Se sachant néanmoins détentrice d'une vérité cachée inconsciente qui concernait également certaines familles du village, elle s'efforçait de rester conviviale avec son entourage et ses nouveaux voisins. Mais bien évidemment, elle était incapable de comprendre les enjeux de cette dissimulation. Peut-être même qu'elle pressentait déjà que ses locataires risquaient de développer certains talents à les démêler, puisqu'ils habitaient désormais la maison d'Edmond. De toute évidence, depuis son décès, ce dernier, n'ayant pas encore trouvé de locataire initié à comprendre les mondes dits invisibles, il ne pouvait que leur rendre la vie infernale. Nous apprenions ainsi que pour différentes raisons, les précédents occupants n'étaient restés que très peu de temps à loger dans ces deux maisons qui, à l'origine, étaient une bâtisse familiale divisée par la suite en deux logements. Mais cette fois, le hasard a permis que cela se produise. Edmond et la petite fille pouvaient enfin manifester leur présence à des individus qui disposent de certaines connaissances des mondes de l'au-delà et qui n'en auraient pas peur. Les manifestations d'Edmond s'intensifièrent dès lors que la toiture s'effondra. Car pour parer au plus pressé et pour contribuer aux réparations urgentes, nous tous, les habitants de la maison d'Edmond, proposâmes nos talents de bâtisseurs. Encore fallait-il savoir que nous n'acceptions jamais de travailler l'aspect matériel des choses sans en comprendre la raison profonde et d'en tirer le son. Et bien évidemment, pour tous les hauts qui se respectent, là encore, ce fut le cas. La magie opéra. Tout se mit en place afin que nous puissions commencer la réparation. En quelques jours, nous déblayons les ruines, évacuons poutres, tuiles et gravats, tandis que Martin, peut-être un peu dépassé par la soudaineté et la tournure des événements, faisait de son possible pour réparer au plus vite. Toutefois, le plus vite n'est certainement pas une valeur inscrite dans les gènes de l'éthique Léo. Le plus vite ne nous signifiant nullement en toute conscience des choses. Les lecteurs réguliers du réseau Léo, des dialogues ou des cahiers de l'ange, savent très bien de quoi il en retourne. Bien que le gros des travaux fût réalisé rapidement, Edmond se manifestait de plus en plus fort dans les deux maisons. Un soir, après une interminable pluie, l'eau inonda encore tout le rez-de-chaussée. En épongeant l'eau par seau entier, Sand commençait à être submergée par une colère envers Génèle, comme si elle le tenait responsable de la situation, car quelque chose dans son comportement l'agaçait profondément. Il semblait apathique et insouciant face à ces événements, tandis que Sand avait le pressentiment que quelque chose allait arriver. Nous soupçonnons déjà que l'eau qui inondait la cuisine allait faire ressurgir des mémoires, mais nous étions loin d'en imaginer les répercussions. Rappelons que l'eau est un transducteur de mémoire qui, comme à l'époque où nous habitions au-dessus du puits des Templiers au pied du château du Bézu, nous avait permis de retrouver nos mémoires de l'inquisition cathare et templière. Voir le lien sur notre site. En outre, à plusieurs reprises ce jour-là, des formes humaines apparurent furtivement dans notre logement ou traversèrent parfois la rue. Alarmé par tous ces curieux phénomènes, Sand alla voir Margie et Damien pour se renseigner si tout allait bien dans leur habitation. À peine franchit-elle la porte que la silhouette d'une petite fille se dévoila par deux fois dans le hall d'entrée. Chez eux aussi, ces phénomènes étranges prenaient soudainement de l'ampleur. Quelque chose ou quelqu'un voulait-il attirer notre attention ? D'autant plus qu'éponger cette eau abondante amenait Sand à penser que ces signes auguraient qu'elle allait devoir prendre en considération des mémoires émotionnelles libérées par l'inondation qui, selon toute vraisemblance, n'étaient pas les siennes. Autre indice de ces jeux transdimensionnels qu'il avait alerté, l'horaire 9h11 s'affichait sur l'horloge, puis à plusieurs minutes d'intervalle, 21h11, 911, s'affichait encore, mais cette fois sur le réveil, puis apparut leur miroir inversé, 21h12. Quelqu'un de l'autre côté appelait-il à l'aide ? Ce 911, un numéro d'appel d'urgence, résonna fort dans les mémoires de Sand, puisqu'elle avait habité aux États-Unis. Un autre point dans ce système d'indices est qu'au moment où elle demanda de l'aide à son soi supérieur, elle reçut un email publicitaire d'un site intitulé « Ciel Léo, solution autour de l'eau, spécialiste de la filtration et économie d'eau ». Sand se débattait avec ce quelque chose qu'elle voyait arriver. N'arrivant pas à définir clairement ce que ces circonstances insistantes lui montraient, elle se trouvait dans l'incapacité d'expliquer le pourquoi de son agitation intérieure. Plus tard, en milieu de nuit, elle se leva pour aller aux toilettes. Alors qu'elle revenait dans la chambre, elle distingua nettement dans la pénombre deux silhouettes assises sur le lit en train de discuter. L'une d'elles était celle d'un monsieur d'un certain âge, alors que la deuxième était à sa grande stupéfaction celle de Génaël. Pourtant, le corps de celui-ci était bien étendu dans le lit puisqu'il semblait dormir profondément. Excédée et épuisée par l'incompréhension de toutes ces manifestations paranormales que nous percevions depuis un certain temps déjà, Sand se jeta sous les couvertures en maudissant ces entités désespérément muettes qui, par-dessus le marché, lui donnaient l'impression d'un complot dans son dos. Alors, que s'était-il manigancé cette nuit-là? Nous ne le saurions que bien plus tard. Ce n'est qu'au petit matin que Sand découvrit que son don d'empathie lui jouait des tours. Et comme au sein de notre tribu, nous avions déjà l'habitude d'endosser des rôles qui nous font adopter certains comportements singuliers, qui bien évidemment ne nous sont pas propres, nous remarquions qu'en nous laissant traverser par ces émotions, provenant d'une information en corrélation avec une situation quelconque, elle nous offrait l'opportunité de les exprimer afin de les traverser, sûrement pour résoudre des boucles de rétrocausalité dans l'inconscient humain. Intuitivement, Sand comprit la raison de sa lutte en rapport aux événements de la veille, acceptant enfin que cette partie qui se débattait en elle émanait du champ informationnel et ne la concernait pas directement. Bien entendu, ces informations émotionnelles lui parvenaient, afin qu'elle puisse déceler le jeu à l'origine de son malaise. C'est ainsi que progressivement, nous nous rendions compte que grâce à cette capacité d'empathie, Sand était sans aucun doute connectée au subconscient de Mathilde, qui cette dernière restait animée par le déni d'elle-même et le rejet de sa propre bulle de réalité. De la même manière que Sand remarqua qu'elle n'était pas vraiment elle-même, elle put réaliser que Génaël était probablement, lui aussi, investi de l'énergie d'Edmond. En somme, les circonstances nous laissaient présager que bien que Mathilde pressentait assurément qu'il y avait quelque chose à découvrir, elle ne voulait tout bonnement pas l'entendre d'Edmond. Dans la matinée, le mari de Mathilde vint aux nouvelles. C'est alors que Sand, menant l'enquête, se fit confirmer qu'Edmond avait bien vécu dans notre maison avant son décès, ce qui étaya notre ressenti. Serait-ce alors justement lui qui tentait de se faire entendre? Percevant que quelque chose se tramait dans la famille à travers ce dernier, nous leur avions proposé d'en parler pour dénouer ce mystère. Car nous savons qu'en mutualisant nos informations, nous pouvions être amenés à faire des découvertes capitales. D'autant plus qu'à plusieurs reprises, nos discussions avaient déjà été riches et constructives à ce propos. Mais le moment venu, ils brillèrent tous par leur absence. Bien qu'il nous fallût près de 7 heures la veille pour parvenir à déboucher, réparer les évacuations de l'évier et remonter une partie de la cloison, il n'en demeurait pas moins que la famille, elle, nous montrait qu'elle préférait tout de même rester bouchée pour ne pas recevoir l'information. Alors que l'appel de l'âme d'Edmond se faisait de plus en plus pressant, nous étions fatigués d'avoir affaire à la résistance de l'ego familial qui refusait d'entendre toute information. Leur silence oppressant généra du mal-être et de l'incompréhension dans tout le groupe, puisque tous les membres de leur famille semblaient préférer rester dans le déni, l'ignorance et le rejet du message que l'âme d'Edmond leur offrait à travers nous. C'est aussi par cette expérience que nous-mêmes avons pu approfondir la compréhension sur la différence entre un appel réel de l'âme et un semblant de curiosité de la part d'autrui. L'âme familiale avait beau nous demander de l'aide, mais l'ego, lui, les empêchait de percevoir cet appel et ainsi celui de leurs parents décédés. Nous avons finalement compris que c'est parce que nous sommes connectés à notre propre âme, notre soi, que nous avons développé le don d'entendre l'appel de l'âme d'autrui, qu'elle ait un corps physique ou pas, les communications entre âmes passant nécessairement par les fréquences de 5e densité. Tout en amenant une approche symbolique et soulignant ainsi que rien n'était dû au hasard, Damien et Margie avaient eux aussi essayé de toucher mot à Martin pour l'avertir des bizarreries qui se tramaient dans leur maison. Mais là encore, comme les trois singes, celui-ci préféra ne rien savoir, ne rien voir, ne rien entendre. Alors, pour ne pas faire trop de vagues et mettre un terme à nos désagréments matériels, les propriétaires étaient surtout préoccupés à avancer les réparations plutôt que de chercher à comprendre. Et là, Edmond n'était pas d'accord. Et c'est parce que nous n'avions pas pu nous délivrer du message qu'il tentait de transmettre qu'il ne nous était plus possible de retourner sur le chantier pour continuer à faire comme si de rien n'était. Ce qui, bien entendu, rendait l'ambiance extrêmement lourde et tendue. Le moment tant redouté arriva lorsque nous allions informer Martin qu'il ne nous était plus possible de continuer la réparation de la toiture, dans la mesure où lui et sa famille étaient fermés à recevoir les informations qui les concernaient. C'est à ce moment-là qu'Edmond révéla soudainement son existence. Car Genaël s'emporta dans une violente colère qui, de toute évidence, n'était pas la sienne. En enjoignant Martin de descendre de l'échafaudage pour mettre les choses à plat, ce dernier, probablement très surpris par ce soudain revirement d'humeur, rechignit et mit beaucoup de temps à s'exécuter, ce qui laissa à Genaël Edmond le temps de trouver Mathilde. L'empoignant par le revers des épaulettes de sa veste, il vociférait, l'assommant de révéler ce qu'elle savait, parce qu'il allait en crever. Nous apprenions par après que Genaël hurlait vraiment de douleur, sujet à d'atroces souffrances durant tout le temps qu'Edmond avait investi son corps. Rappelons qu'Edmond était décédé d'un cancer du côlon, comme par hasard, à la même période de mois de mai. Mathilde aussi, ne s'attendant pas à une telle réaction de la part de Genaël, prit peur. Évidemment, ceux qui assistèrent à la scène et qui connaissaient le passif de la famille dans le village et l'histoire qui se jouait dans nos maisons, comprirent immédiatement que Genaël n'était plus Genaël. L'entité Edmond avait pris possession de son corps et visiblement souhaitait s'exprimer pour transmettre son message à qui de droit. Sand s'en aperçut la première, puisqu'en essayant de raisonner Genaël, ce dernier la fixa droit dans les yeux, lui hurlant « Je ne suis pas Genaël, je suis Edmond !» Cette fois, c'était on ne peut plus clair, Genaël n'était plus Genaël. Était-il perdu? Avait-il disjoncté? Bien sûr que non. Car dès que Margie et Élie l'eurent raccompagné chez lui, Genaël revint à lui et l'entité esprit Edmond délaissa son corps. Il dormit tout l'après-midi pour récupérer de ce transfert d'âme et de ses douleurs au côlon. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Sous le choc, Mathilde se replia sur elle-même, tandis que Martin et son frère, nos propriétaires, nous avertissaient de ne plus jamais leur parler d'Edmond et de prendre définitivement les distances avec leur famille. C'est ainsi que nous nous libérions de la pesante programmation karmique qui nous liait à eux. Rompre ce lien karmique nous autorisait alors à poursuivre notre propre chemin et à ne plus nous soucier du leur. Nous comprîmes rapidement qu'aussi longtemps que nous étions habités par les rôles de Mathilde et Edmond, nous partions aider leur famille à réparer les biens immobiliers légués par leurs ancêtres et peut-être bien plus encore. Réparation karmique qui nous avait été déléguée puisque la famille suit debout, réfutant l'existence des mondes hyperdimensionnels, était manifestement incapable de la prendre en charge. Nous avons réalisé qu'Edmond avait choisi de nous transmettre ces informations parce que non seulement notre groupe était compétent pour ses talents de bâtisseur, mais aussi pour ses compétences métaphysiques qui ont trait à la médiumnité. Cette expérience n'était assurément pas gratuite, puisque Mathilde devait être ébranlée pour créer une brèche dans l'armure de ses corps énergétiques. Et c'est parce que nous avions accepté d'endosser ces rôles difficiles avec la famille suit-debout et que nous avions réalisé le travail karmique dont nous étions chargés, qu'en effet, Mathilde apprit peu de temps après l'existence de lourds secrets de famille. Nous avons donc décidé de raconter un abrégé de cette histoire de transfert d'âme, parce qu'en ces moments particuliers de fin de cycle, quantité de gens deviennent des victimes ignorantes de situations parfois similaires avec leur voisinage ou leur famille et n'en comprennent pas toujours le sens, mais aussi pour souligner la différence essentielle entre une manifestation d'une âme au service d'autrui et celle de l'obstination de l'ego au service de soi. Au final, nous savons aussi qu'Edmond aurait probablement pu nous renseigner sur l'histoire karmique du village afin que celle-ci cesse de se répéter. En effet, en termes de charge karmique, le village reste clairement très touché. Nous l'avons perçu en réalisant le mauvais état de santé de sa population. Probablement aussi que connecté à l'avenir de sa famille et de ses descendants, Edmond aurait pu les avertir pour qu'ils apprennent comment changer leur propre futur. Nous l'avons compris par d'autres synchronicités que nous n'avons pas racontées. Ceci dit, en 1348, comme la plupart des communes du sud de la France, Albière fut ravagée par la peste noire apportée, comme en ce moment, par les virus cométaires. Probablement que pendant cette période de l'histoire, beaucoup d'Albérois moururent et furent jetés dans des fosses communes, charriés sur des brancards, comme celui garé sous le porche de l'église. Nous arrivons à la fin des temps et le même genre de drame risque de se produire pour les Albérois qui n'ont pas tiré le son de l'histoire, leur histoire. Le Covid-19, nous l'avons déjà signalé, ne serait qu'un signe précurseur d'une nouvelle épidémie historique qui, cette fois-ci, serait bien réelle. Ainsi, parmi ces villageois somme toute très ordinaires, peu semblent capables d'ouvrir leur esprit à l'impensable, à l'inimaginable. Car leur esprit cartésien d'individus moyens semble vouloir rester cantonné dans des croyances qui les obligeront à rejouer perpétuellement les mêmes jeux. Et ce sera probablement le cas. Suite à ces événements assez singuliers, nous avons questionné notre soi futur afin de disposer de quelques éclaircissements en rapport avec ce que nous avions vécu avec Edmond et sa famille.
Question à l'ange. Comment se fait-il que Jean-Noël se soit laissé surprendre par une attaque transdimensionnelle de cette façon?
Détrompez-vous. Jean-Noël ne s'est pas laissé surprendre. Il était consentant à un très profond niveau de son âme, ce qui signifie qu'à un niveau de réalité supérieure, il s'agit d'un arrangement entre lui et l'entité conscience d'Edmond, désincarnée du plan de troisième densité. Afin d'aboutir son processus de récapitulation et tenter de délivrer des informations importantes qui le libéreraient de son contrat d'âme avec sa famille, Edmond avait sollicité l'âme-esprit Jean-Noël pour lui emprunter provisoirement son corps. En s'exprimant ainsi à travers le corps de Jean-Noël, il s'est affranchi en quelque sorte de son contrat d'âme, cela même si sa famille n'a pas voulu entendre ce qu'il avait à leur transmettre. Sand avait donc effectivement perçu l'âme d'Edmond négociant sur le lit avec celle de Jean-Noël pendant que le corps de ce dernier, le prolongement de l'âme dans la troisième densité physique, dormait profondément.
Et pourquoi Jean-Noël ?
Ayant conscience de certaines règles propres à la réalité des autres mondes, il n'avait aucune culpabilité à laisser son corps remplir momentanément la fonction de portail organique pour que l'entité conscience Edmond puisse s'exprimer et poursuivre son voyage vers le lieu de repos de l'âme. Il faut aussi savoir que durant son incarnation, Edmond était intéressé par la recherche de la connaissance alchimique et avait participé quelquefois en secret au camp d'été de Déodat Rocher. C'est ainsi que nous comprîmes, par les indices de l'appel au secours et du mail Ciel Léo, qu'il s'agissait probablement d'une âme Léo qui nous demandait de l'aide. Et c'est cette recherche de la connaissance qui vous a rapproché de l'entité conscience Edmond. Car c'est par votre propension de quêteur de connaissances et d'observateur de synchronicité qu'elle a compris comment se manifester pour délivrer son message. Jean-Noël a donc accepté ce transfert d'âme afin qu'Edmond puisse parvenir à ébranler le rempart de déni et de culpabilité de la famille Suidebout. Et même si elle a refusé de prendre connaissance du secret qu'Edmond aurait pu lui révéler, ce dernier aura réussi non seulement à manifester sa présence, puis à ébranler les croyances cartésiennes de cette famille d'esprits ordinaires, mais aussi à se libérer de leur attachement respectif pour poursuivre son voyage vers d'autres mondes.
Question à l'ange. Pourquoi Sand a-t-elle été ainsi mise à l'épreuve ?
Vous êtes tous, chacun à sa manière, éprouvés par la progression du changement de densité. Nous avons déjà précisé que l'épidémie virale cométaire dissimulée par l'appellation Covid-19 a été un accélérateur providentiel du processus de l'évolution de l'âme. Puisque le processus de réinitialisation à sa fréquence d'origine est entamé, vos dons ou capacités recommencent à se développer, cela grâce à l'apport de nouvelles séquences génétiques transportées par ces virus cométaires. Ce processus qui soutient et renforce considérablement vos capacités de métamorphose de l'âme est à peine engagé. Comme pour tous les autres candidats à la quatrième densité SDA, votre groupe de travail se prépare à retrouver les facultés légitimes et originelles de l'âme individuelle, ce qui, pour les consciences encore branchées sur le mode SDS, peut parfois se révéler très déconcertant. L'un de ces dons naturels est la capacité de redevenir empathe, une faculté naturelle de l'âme que seulement les vrais humains, comme les peuples premiers, avaient su conserver. L'empathie est un don qui parfois peut être porté comme un fardeau, car il n'est pas facile de ressentir en permanence les émotions qui vous entourent. Cette capacité de l'âme n'a pas de limite, puisqu'elle ressent aussi bien les fréquences de résonance des êtres humains que celles des animaux, mais aussi celles des entités présentes dans l'atmosphère d'une pièce. Pour arriver à réguler ce flux émotionnel, vous devez apprendre à dissocier les émotions des autres des vôtres. Les prendre sur soi, mais pas pour soi. C'est-à-dire apprendre à vous laisser traverser par ces informations, même si elles sont inconfortables, sans les prendre personnellement. Ce réflexe de dissociation est normalement acquis dès la naissance, mais disparaît ensuite par le processus de programmation. Il est donc question de le cultiver au cours des années afin de vivre ce don médiumnique sereinement. Mais celui qui oublie ce réflexe, lié à la capacité de l'âme originelle, le vit mal puisqu'il aura toujours l'impression de rester dans un sentiment de culpabilité. C'est pourquoi acquérir la connaissance de ce phénomène vous préserve d'un flux émotionnel trop envahissant.
Question à l'ange. En rassemblant les pièces du puzzle qui nous avaient été données d'assembler, votre hypothèse d'un enfant ou d'une filiation illégitime dans la famille issue des Bou était-elle fondée ?
Il s'agit probablement d'une problématique de cet ordre-là, et il n'y a pas que cela. Mais pour ne pas interférer dans leur libre arbitre, et comme les individus concernés n'ont pas voulu accepter de recevoir les informations de l'entité conscience Edmond, vous devez en rester là.
Question à l'ange. Pourquoi Edmond ne pouvait-il pas simplement se contenter d'influencer la psyché de quelqu'un de sa famille pour se manifester ?
Il a déjà tenté de le faire avec une personne dont il était proche et qui disposait de cette capacité avancée provenant des mondes supérieurs. Mais comme cette dernière était psychologiquement blessée, donc psychiquement pas assez forte et équilibrée, et que sa parentèle est restée désespérément sourde et aveugle à ses signes, cette personne, parfois investie par l'énergie conscience d'Edmond, a été diagnostiquée schizophrène, internée en psychiatrie et tout bonnement empêchée de s'exprimer par la médication. Sachez également que l'interférence de l'âme d'Edmond, vécue par Genaëlle, n'avait rien à voir avec de la schizophrénie ou une quelconque affection psychiatrique, puisque ces sciences de l'esprit prétendument avancées font volontiers référence à des systèmes de croyances archaïques et absurdes. Dans ce cas, il s'agit bien d'une intervention décidée à des niveaux supérieurs de réalité, plan dont la psychiatrie et les sciences rejettent fondamentalement l'évidence et qui, dans une certaine mesure, sont des domaines dans lesquels l'humain ordinaire évite de s'aventurer. Vous venez d'expérimenter un rapprochement avec les plans de l'âme, de l'invisible, du non manifesté, autrement dit des domaines de l'esprit. Cette expérience, qui pourrait paraître inacceptable par un esprit étroit, a pourtant considérablement renforcé votre cohésion tribale. Mais cette initiation a aussi éloigné ceux qui n'étaient pas encore disposés à la traverser. Ce vécu a donc été en quelque sorte votre première initiation de groupe qui a eu des conséquences assez heureuses dans les mondes supérieurs. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette vérité étant réversible, ceux qui sont destinés à rencontrer leur soi futur seront davantage outillés pour retrouver leurs compétences de planificateur et voyageur temporel. Cette expérience avec Edmond, réalisée avec l'intention de rendre service à autrui, tout en faisant preuve d'abnégation, influence grandement le champ morphogénétique et démontre que la conscience est un facteur qui peut affecter des événements de plus grande ampleur encore. Même si les circonstances avaient été surprenantes, Edmond ne vous a-t-il pas demandé de lui rendre service ? L'initiation qui vous a été proposée peut être considérée comme une compétence spirituelle ou chamanique tribale qui, si elle est correctement comprise, appliquée et assumée par des esprits matures et conscients, est certainement capable d'accomplir des miracles. À commencer par remanier certains programmes en troisième densité, programmes qui par conséquent influencent d'ores et déjà votre réalité actuelle. Vous pouvez donc considérer les tribulations que vous venez de traverser comme un apprentissage proposé par votre soi, enseignant supérieur du service d'autrui. Alors ne croyez pas que cet échange d'âme entre Edmond et Genaël était une défaillance de la part de ce dernier. Car le temps passé pendant cet apprentissage a considérablement renforcé vos capacités de métamorphose de l'âme afin que peu à peu, elle puisse se réinitialiser à sa fréquence d'origine pour retrouver ses facultés souveraines et légitimes. Votre incarnation actuelle éprouve grandement vos âmes car elle se prépare désormais à fédérer des communautés en quatrième densité. Ne gaspillez donc pas vos facultés de dissociation avec de futiles illusions car le processus que vous débutez en ce moment vous conduira progressivement à votre guérison et vous amènera à vous rencontrer vous-même dans le futur.
Question à l'ange. Nous parlions tout à l'heure de Genaël, qui, ayant connaissance de certaines règles, n'avait pas de culpabilité à faire fonction de portail organique pour Edmond. Est-il indemne de ce programme ou s'agit-il d'une faculté qui lui est propre?
La culpabilité serait lié à la croyance qu'il soit responsable d'une faute commise. Mais Genaël a parfaitement conscience qu'il n'est pas responsable des actes commis par Edmond, puisque la part de lui qui était restée présente durant tout le long de cette expérience de transfert d'âme a empêché Edmond d'outrepasser les limites. En outre, la possibilité de laisser provisoirement la place à une autre âme pour qu'elle puisse remplir une mission ou un objectif quelconque est une capacité psychique avancée appartenant à des êtres de quatrième densité. C'est ainsi que grâce à son abnégation, la non-intention de contrôler quoi que ce soit, et puisqu'il n'a pas anticipé de quelle manière les choses allaient se terminer, Genaël a accumulé de la force de l'âme. Cette force qui représente en quelque sorte la propension à provoquer des événements ou des circonstances qui peuvent orienter, voire modifier les courants de l'existence, est comparable aux forces de gravitation. Et étant donné qu'il n'avait jamais anticipé le dénouement de son expérience avec Edmond, il a notablement renforcé la détermination de son âme et amplifié sa fréquence de résonance vibratoire. Vous devez donc comprendre que dès que l'anticipation entre en jeu, l'intention n'est plus du service d'autrui, SDA, mais redevient du service de soi, SDF. Anticiper, qui dans ce cas revient à désirer pour soi-même, annule en quelque sorte les lois de la gravitation naturelle ou spontanée, autrement dit la magie de l'âme. C'est pourquoi tout projet ou événement, quel qu'il soit, s'il n'est pas maîtrisé, organisé ou planifié par de l'anticipation, mais simplement mu par l'énergie de l'intention, aboutit. puisque c'est l'intention affirmée, soutenue de manière répétée, qui permet d'accumuler cette force de l'âme, d'autant plus lorsqu'elle est amplifiée par l'effet de groupe.
Question à l'ange. Edmond avait manifestement besoin d'entendre de la bouche de chacun des membres de sa famille une formulation claire du refus de connaître le mystère qui les concernait tous. Existe-t-il une raison précise à ce besoin d'entendre cette formulation claire de refus ?
Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce que représente l'âme du point de vue métaphysique. Le corps humain, qui est le prolongement densifié de l'âme, est de nature physique stable en troisième densité. Au contraire du corps dans les densités supérieures, dans lesquelles la variabilité physique entre en jeu et où l'âme peut décider de l'apparence et de la taille de son corps, selon l'endroit et les circonstances dans lesquelles sa conscience se manifeste. Sur ces plans supérieurs, les corps peuvent donc changer de forme et la réalité physique n'est pas limitée à une seule fréquence d'expression ou de lecture. Mais cette réalité physique devient l'expression de lectures multiples, précisément parce que la conscience n'est pas limitée par le cerveau et les sens humains, dépendant d'un seul et même corps, comme en troisième densité. C'est donc pour cette raison que ceux qui peuvent distinguer l'âme lorsqu'elle n'est pas incarnée dans une densité voient simplement l'apparence d'un nuage de particules qui reprend à peu près les contours, le motif géométrique, du corps de troisième densité qu'elle habite ou qu'elle vient de quitter. L'âme transporte de ce fait ses souvenirs, physiques et psychiques, sous la forme de vibrations à l'intérieur des particules qui la composent, pour être libérées et exprimées également sous forme de vibrations lorsque les circonstances s'y prêtent. L'unité de conscience qui compose l'entité Edmond a donc trouvé le moyen de libérer les souvenirs contenus dans ses neutrinos, non seulement en pénétrant la psyché de Genaël, mais en se fondant dans sa géométrie corporelle. À ce propos, voici un extrait d'une séance avec Cassiopéen du 27 mai 2000. Voir le lien sur notre site. Question. En ce qui concerne ces neutrinos et la composition de l'âme, comment les souvenirs sont-ils formés, conservés ou structurés avec ces neutrinos ? Réponse. Contenus à l'intérieur pour être libérés lorsque et si cela est approprié. Question. Les souvenirs sont contenus dans les neutrinos ? Réponse. En quelque sorte. Question. Sont-ils contenus dans des motifs formés par les neutrinos ? Réponse. Plus proche. Question. Donc, cela signifie que si une unité de conscience ou une âme a plus de souvenirs ou d'expériences qu'une autre unité de conscience, elle aura plus de neutrinos ? Réponse. Non. Question. Différents motifs ? Réponse. Non. Question. Quelle est la différence ? Réponse. Plus de données par unité, en quelque sorte. Question. Cela signifie-t-il qu'un neutrino individuel peut être en soi plus dense en données, pour ainsi dire ? Réponse. Pour ainsi dire. Question. Cette densité accrue de données modifie-t-elle la nature ou la fonction du neutrino individuel ? Réponse. Peut-être que cela change la fonction de la conscience, donc l'environnement. Question. Y a-t-il un nombre spécifique de neutrinos qui constitue une unité de conscience ou âme ? Réponse. Le nombre n'est pas tout à fait le bon concept. L'orientation est plus proche. Question. Quelles sont les options d'orientation ? Réponse. Fréquence de résonance vibratoire. Question. Les fréquences de résonance vibratoire augmentent-elles ou diminuent-elles avec la densité des données ? Réponse. Changement. Mieux vaut ne pas quantifier. Question. Nous parlons d'âme. L'âme représente quelle densité dans le concept ? Réponse. Arc. Les neutrinos sont liés au concept d'un pont vers l'énergie pure d'une certaine manière ? Question. Oui. J'allais dans cette direction. Je me demandais pourquoi vous parlez de neutrinos et non de photons, car les photons sont aussi un pont vers l'énergie pure, dirais-je. La différence entre les photons et les neutrinos, c'est que les photons sont des bosons et les neutrinos sont des fermions. Les neutrinos doivent danser pour ne pas se toucher. Les bosons sont comme des paires de neutrinos et de photons, car les bosons sont libres de se déplacer dans l'espace comme ils le souhaitent. Réponse. Nous voudrions mentionner les photons dans le cadre de cette discussion, mais pour la tendance de certains lecteurs des pages web à faire une mauvaise interprétation du fantastique Amour et Lumière, nous ne le faisons pas. Question. Eh bien, la lumière fantastique était une danse au tournant du siècle, ce qui renvoie à la remarque sur la danse. Les neutrinos sont-ils les éléments constitutifs fondamentaux de tout ? La particule la plus fondamentale, pour ainsi dire ? Réponse. Plus comme un point médian avec une expansibilité sphérique vers l'extérieur, tétraède, pentagone, hexagone.
Question à l'ange. Nos expériences au sujet de la magie de l'âme sont assez phénoménales. Car à propos du projet de l'écoléo, nous avions préféré les modalités de sa réflexion et nous sommes abasourdis de l'avancée des travaux. Serions-nous sur la voie de sa réalisation ?
Si l'anticipation ne vient pas fausser le mécanisme, la réalisation survient. La rénovation de l'écoléo est déjà achevée en quatrième densité, mais le bâtiment ne ressemble pas tout à fait à ce que vous êtes encore en train de construire en troisième densité, ou tout au moins pas à ce que vous aviez imaginé pour le projet initial. Cette manière de percevoir ou d'appréhender les choses, c'est-à-dire de rénover le bâtiment sans plan ni projet précis, est issue de conscience orientée vers le service d'autrui. Cependant, votre manière de procéder reste foncièrement inconcevable et incohérente pour un esprit SDS qui, lui, ne peut que planifier, anticiper, choisir, contrôler, projeter, calculer, vérifier, gérer, mais au grand jamais laisser agir la magie de la gravitation. Pour voir œuvrer cette magie, vous devez donc non seulement avoir appris à poser une intention sans attendre de résultat, mais devez réfléchir si l'objectif visé est de servir son prochain. Car l'anticipation et la planification sont des processus à visée personnelle, donc au service de soi. Le désir de servir autrui et de faire quelque chose qui aidera les autres mène assurément à sa réalisation. Puisque cette réalisation n'aboutira plus dans un monde de troisième densité SDS, mais se réalisera cette fois-ci dans le nouveau monde de quatrième densité SDA. Pour résumer, en troisième densité SDS, celui qui veut réaliser quelque chose doit anticiper, gérer, planifier, vérifier, ce qui revient également à dire qu'en troisième densité, la réalisation demande d'anticiper. Alors qu'en quatrième densité, la réalisation découle de la magie de l'âme guidée par le soi futur et se fonde sur un exercice mental d'abnégation et de conviction équilibrée par une foi pure et exempte de tout contrôle ou préjugé. Autrement dit, pour orienter votre être vers le service d'autrui, il s'agit avant tout de se satisfaire pleinement de ce qui est dans l'instant présent, de l'apprécier tel quel, en ayant foi en l'univers et dans le fait que tout se produira comme il se doit. Cela sans nourrir la moindre attente sur la manière dont cela se fera ou sera fait le futur.
Question à l'ange. Même si nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants de la réflexion de l'écoléo, devrions-nous modifier quelque part nos intentions de début, étant donné que nous aménageons un lieu très inhabituel à destination de la future humanité ?
Vous êtes déjà ceux que vous serez demain, et vous êtes de ceux de la future humanité. Mais comme vous savez déjà que vous apprenez à devenir maître de votre soi présent et élève de votre soi futur, vous resterez les apprentis expérienceurs de cette néo-réalité en quatrième densité. Vous découvrirez énormément de nouveaux concepts à comprendre, à apprendre, à expérimenter, puis à partager et enseigner. Vous le savez aussi, des événements cycliques majeurs qui doivent encore arriver seront imparables. Ni vous, ni aucune autre race extraterrestre ou humaine, peu importe son niveau technologique, ne pourra y changer quelque chose. Mais grâce à votre résonance spirituelle, vous apprendrez déjà comment en atténuer certains effets. Beaucoup de choses restent sous contrôle des entités non humaines ou humaines provenant du futur, mais l'horloge tourne. Les conflits organisés et planifiés par le corpus SDS qui se sont rajoutés au chaos mondial cesseront bientôt pour vous grâce au jeu des résonances. Les maladies et pandémies encore possibles, elles aussi planifiées, pourront être maîtrisées si vous continuez à fonctionner par unité tribale et en réseau et que vous continuez ensemble à appliquer la connaissance. Nos recommandations actuelles ne sont pas différentes de celles qui vous ont été transmises depuis ces dernières années, mais nous les plaçons désormais dans un contexte où les enjeux sont encore plus importants que ce qui est couramment reconnu par la plupart des groupes de recherche de la connaissance. Car à un niveau supérieur, malgré vos divergences intellectuelles ou spirituelles, il est possible de collaborer et travailler en réseau pour réunir vos forces et compétences au cas où l'avenir de la race humaine serait encore compromis par certaines conjonctures cosmiques imprévisibles. Cela signifie également qu'à un niveau individuel, encore plus d'efforts sont possibles. Vous avez déjà trouvé des endroits sûrs pour pouvoir poursuivre votre mission au service de l'humain. Mais les populations doivent continuer à être informées pour pouvoir endurer plus courageusement les prochaines tempêtes de grande ampleur, ainsi que d'autres perturbations cosmiques et climatiques extrêmes à venir partout dans le monde. Il existe toutefois une approche métaphysique de ces catastrophes qui consiste à utiliser vos pensées et vos comportements pour changer de ligne temporelle et en l'occurrence d'en atténuer leur impact, puisque la conscience est un facteur qui peut affecter la réalité au moment même où elle se dessine. Ce facteur est la fameuse résonance morphique, morphogénétique ou champ d'information de la conscience qui influence la gravitation. Ce champ morphogénétique n'est cependant pas le seul domaine qui peut être influencé par la conscience. Il existe d'autres couches dans ce champ qui se situent avant et après son influence directe et qui sont principalement responsables de tout ce que vous appelez psychique et paranormal et en dehors des limites de votre science humaine fondamentale. Ces paracouches se situent donc avant et après les couches du champ morphogénétique, autrement dit dans les stades plasmatiques de la matière. Votre influence psychique s'intègre donc activement dans ces paracouches par vos pensées actives. Ceci dit, la principale couche qui constitue celle de votre sphère de résonance morphique est soumise à la force de la pensée objective ou directe. Mais grâce à la force de la pensée indirecte, l'intention sans anticipation, la préférence, l'imagination, la conscience peut contribuer à modifier les différents stades plasmatiques pour changer la réalité du champ morphogénétique et ainsi le cours des événements. Nous reviendrons sur ces notions de zones pré- et post-morphogénétique ultérieurement. Vous pouvez d'ores et déjà considérer que grâce à la force de ce genre de pensée, qui préfère ou imagine, certains gabarits et plans de manifestation qui devraient se réaliser sur la ligne temporelle originale peuvent être déviés ou contrés. Ces champs de résonance morphique sont aussi invisibles et insondables que puissants et influents et peuvent toujours modifier la réalité actuelle de l'humanité pour que certains événements fermement planifiés par le corpus SDS de quatrième densité n'arrivent pas. Il s'agit également de comprendre que les champs de résonance morphique influencent également les plans désincarnés. Si les êtres désincarnés sont plus facilement connectés aux champs plasmatiques pré- et post-morphiques, comme de leur vivant, ils le sont également par la conscience de leur esprit. Ceci dit, la pratique d'une langue vivante n'est absolument pas nécessaire pour décrypter ce champ de résonance morphogénétique. Toutefois, l'individu incarné doit pouvoir faire parfaitement confiance à ses pensées intuitives pour arriver à le lire. Au final, vous aurez probablement compris que c'est par sa propre fréquence de résonance vibrant à travers ce champ de conscience que l'entité âme-esprit Edmond a su vous faire comprendre sa requête. Les temps du changement sont arrivés car la conscience globale de l'humanité, autrement dit un immense champ morphogénétique, augmente progressivement. Mais vu les circonstances et à cause des incursions incessantes du corpus SDS dans les couches plasmatiques pré- et post-morphogénétiques de votre réalité, ce grand champ voit parfois sa croissance ralentir, parfois s'accélérer. La vraie question serait donc, à quelle allure vont ces changements dans votre troisième densité? Chaque espèce vivante sur Terre ou sur d'autres planètes crée des champs morphogénétiques, des formes pensées basées sur les expériences accumulées qui peuvent avoir un effet retour sur les comportements, les attitudes et les capacités des autres membres de la même espèce. Néanmoins, certaines espèces extraterrestres sont devenus maîtres de la manipulation des couches plasmatiques de la matière. Tel est le cas de certaines espèces de gris insectoïdes qui sont capables de sélectionner dans ces champs plasmatiques certains potentiels de réalité pour qu'ils soient matérialisés par les pensées de certains humains. C'est ainsi que dans votre monde de troisième densité, ces champs morphogénétiques influencent ceux qui rencontrent les mêmes situations en même temps ou à des temps différents, selon la réalité qu'ils habitent. Et c'est par la manipulation des zones plasmatiques prémorphiques que peuvent être insérés des programmes provoquant de solides illusions dans l'esprit des individus. L'ère glaciaire a frappé l'humanité, mais certaines régions plus proches de la réalité de quatrième densité sont assez préservées. Cela est dû au fait que, à l'exemple des groupes d'individus comme le vôtre pour l'espèce humaine, chaque espèce crée des potentiels de réalité sous forme de champs morphogénétiques qui, fondés sur des formes pensées et sur la mémoire des expériences accumulées, plus conscientes et plus élevées, peuvent avoir un effet sur la réalité, sur les comportements et les facultés de tous les autres membres de la même espèce. Ainsi, l'intérêt de travailler en réseau fait que les individus adhérents ou participant à ces réseaux peuvent plus ou moins sciemment créer des champs morphogénétiques influençant d'autres individus en altérant plus ou moins inconsciemment pour le moment encore les zones pré- et post-plasmatiques jusqu'à ce qu'à partir d'un petit groupe d'individus, une masse critique d'esprit attentionné et lucide soit constituée. Ce sont surtout ces zones plasmatiques qui peuvent être modelées par le concept de préférence, l'intention sans l'anticipation. Cet exercice d'abnégation et de conviction doit alors être équilibré par une foi pure et exempte de tout contrôle ou préjugé. Et le seul moyen d'obtenir cet effort soutenu serait que les intentions fortes et optimistes de chacun d'entre vous soient ajoutées au concept d'un effort au service d'autrui ou d'un résultat bénéfique pour l'humanité. Et comme pour toutes sortes de gymnastiques spirituelles et mentales, votre travail doit être intense et réel. Il ne s'agit donc pas de rester passif ou de faire semblant en attendant que le changement arrive. Ce ne sont pas les êtres galactiques ou les êtres de lumière qui provoqueront le changement sur votre planète, mais ce sera le travail, la persévérance et la conscience globale des humains qui l'engageront. Vous devrez donc tous parvenir à devenir acteur de votre propre changement en apprenant à appliquer cette loi de préférence pour un résultat bénéfique pour l'humanité. Car ce que la plupart des gens n'ont pas compris, c'est qu'ils veulent que le monde change, mais eux-mêmes ne veulent rien changer dans leur propre monde. C'est pour cette raison qu'il est important que de plus en plus de gens soient réveillés à la réalité objective de votre monde, ce qui est également votre mission. Décidez de donner un autre sens à votre vie et le meilleur moyen que peut utiliser un petit groupe d'individus fortement et positivement concentrés comme le vôtre pour contribuer à étendre un néo-champ morphogénétique et changer de monde. Transmis par Sand
et Genaël.